Ce message vous est proposé gratuitement.
Gratuitement.
Et en intégralité par le ministère Enseigne-moi. Sa diffusion est rendue possible grâce aux généreux dons des internautes comme vous. Nous vous souhaitons une agréable écoute sur enseignemoi.com, le site partenaire des églises locales.
Le Seigneur est bon. Amen. Le Seigneur est bon. Amen. Il y a des gens de convaincus, c'est bon. Amen. Bien, ce matin, on va continuer dans la deuxième partie de l'école de guérison. Et vous savez, comme j'étais en train de conduire de Bromont à Granby, la présence de Dieu était vraiment très forte dans mon auto, juste en train de louer le Seigneur et l'adorer. Et je retenais les larmes tellement j'avais le cœur de Dieu. Et qu'est-ce que je ressentais dans mon cœur? C'est le Seigneur qui disait, vous savez, je veux guérir mon peuple, je veux que mon peuple soit en santé spirituellement, dans l'âme et dans leur corps. Puis je ressentais juste l'amour de Dieu qui venait sur moi, mais je crois que c'est pas juste pour moi, c'est pour vous également. Le Seigneur vous aime et le diable, lui, il vous aime pas. Révélation de la journée, si vous quittez cette place, vous allez savoir le diable ne vous aime pas. Mais le Seigneur Jésus nous aime. Et ce matin, si vous recevez juste une chose, recevez cet amour dans votre cœur. Laissez l'amour de Dieu vous transformer, vous toucher. Parce que quand on a l'amour de Dieu, savez-vous, ça guérit tout le restant de notre vie. En Dieu, dans son amour, dans sa présence, il n'y a rien de manquant, rien de brisé. Amen. À cause de l'amour de Dieu. Et ce matin, on a le privilège de tourner nos regards encore une fois dans la parole de Dieu. La semaine passée, on a parlé comment le Seigneur avait tout payé à la croix pour payer la dette de nos péchés, mais non seulement la dette de nos péchés, mais également Jésus a pleinement payé le prix pour qu'on soit guéri. Est-ce que vous en rappelez? Et vous savez, il y a toute une philosophie dans l'Église évangélique qui circule qui dit que Jésus a seulement payé pour enlever nos péchés, il a payé la dette de nos péchés, mais ils omettent de dire, et même ils vont dire qu'il ne l'a pas fait, que Jésus n'a pas payé le prix pour notre guérison. Et qu'est-ce qui suit comme enseignement? C'est qu'on devrait s'attendre à être guéri seulement une fois qu'on meurt rendu au ciel. Alors les chrétiens qui croient cet enseignement-là vont marcher toute leur vie sujet à la maladie, ils ne résisteront pas à la maladie parce qu'ils se disent, oui, un jour je vais être guéri, mais Jésus ne l'a pas payé encore. Alors moi, je pense que c'est vraiment important qu'on soit renouvelé et qu'on comprenne que Jésus a pleinement payé pour notre guérison et ça fait partie de l'expiation ou l'œuvre de la croix. Ça en fait partie. Alors si vous êtes sauvé, autant que le Seigneur voulait pardonner vos péchés, autant il veut que vous soyez en santé aujourd'hui. C'est de ça qu'on a parlé la semaine passée. Et c'est la base. Si on croit que le Seigneur est celui qui veut nous rendre malades, comment pouvons-nous s'attendre d'être guéris de sa main? Comme on a dit également, il y a des gens qui disent « Oui, mais Seigneur, travaille mon caractère par la maladie. » Mais si c'est le cas, pourquoi prends-tu une aspirine pour aller à l'encontre de ce travail-là? Si la maladie, c'est un cadeau de Dieu, pourquoi vas-tu voir un médecin pour enlever ce cadeau-là? Mais on a discuté un petit peu comment c'était ridicule, comment on est en train de raisonner en dehors de la parole de Dieu. Mais qu'est-ce qu'on veut faire aujourd'hui? C'est rendre toutes nos pensées captives à l'obéissance de Jésus-Christ, que sa parole soit notre source et notre fondement de foi. Amen. On va croire uniquement la parole. Et s'il y a des choses qu'on ne comprend pas, on se dit, ben moi je comprends pas pourquoi telle et telle chose arrive. Savez-vous, notre cerveau ne devient jamais notre Dieu. Même si on ne comprend pas quelque chose, on dit, Seigneur, tu as promis ça dans ta parole, alors moi je vais croire uniquement ta parole, même au-delà des circonstances, même au-delà des questions que je peux avoir. Amen. Moi, c'est une chose que j'ai vécue. Le Seigneur m'a dit, Joël, est-ce que ton cerveau est rendu ton Dieu? Ou c'est moi ton Dieu? Et j'ai pu décider, non Seigneur, même si je ne comprends pas tout, je vais croire ta parole, même au-delà de ma compréhension humaine. Parce que Dieu est beaucoup plus grand que nous. Amen. Alors ce matin, on a le privilège d'avoir mon épouse qui va venir maintenant. Elle va partager un témoignage. Oui, gloire à Dieu. On va prier ensemble, mon épouse s'en vient. Et puis elle va partager un petit peu des choses qu'elle a vécues concernant la guérison divine. Et une des choses que je vais faire, je vais juste vous lire deux versets avant qu'on prie. Dans Matthieu 10, chapitre 10, versets 7 à 8, il est écrit « Allez, prêchez et dites, le royaume des cieux est proche, guérissez les malades, ressuscitez les morts, purifiez les lépreux, chassez les démons, vous avez reçu gratuitement, donnez gratuitement. » Alors vous voyez ici, on a un mandat et c'est un commandement. Le Seigneur nous dit, c'est radical quand même, allez, prêchez et dites le royaume des cieux est proche, guérissez les malades. Dieu ne nous a pas dit, aller prier, « Oh Seigneur, s'il te plaît, guéris la personne qui est malade. » Dieu ne nous demande pas de faire ça. Il dit, « Guérissez les malades, ressuscitez les morts. » Combien de personnes ici ont ressuscité un mort cette semaine? Personne, OK. Vous pouvez vous pratiquer en passant. On peut se pratiquer sur des plantes. Hein? Et purifier les lépreux, chasser les démons, vous avez reçu gratuitement, donner gratuitement. Ça, c'est le mandat que Dieu nous a donné. Et puis, on veut se mettre en position pour faire ces choses-là. N'est-ce pas? Mais c'est par la parole de Dieu qu'on peut y arriver. Alors, on va prier ensemble. Je vais prier maintenant pour l'enseignement de la parole de Dieu, pour qu'on puisse bien recevoir dans un bon terrain. Seigneur Dieu, on vient devant toi ce matin. On veut te remercier pour ta parole qui nous affranchit. On te remercie, Seigneur, que tu dis toujours vrai. Et ta parole, Seigneur, c'est une source de bénédiction dans nos vies. Et ce matin, on prie que chaque personne ici puisse recevoir cette parole, que ça puisse être un dépôt éternel dans leur cœur, que l'ennemi ne vienne pas voler cette semence, mais que cette semence puisse produire une récolte de santé à tous les niveaux dans leur vie. On a prié au nom de Jésus et pour ta gloire. Amen.
Amen. Amen. Dieu est vraiment bon. Dieu est vraiment bon. On vous le dit souvent à l'Église de la Victoire, vous n'avez pas fini de l'entendre, Dieu est bon. Si vous ne l'avez jamais entendu, je le dis encore, Dieu est bon. Fait, qu'est-ce qu'on a pensé faire durant l'école de guérison? C'est qu'on a pensé donner des témoignages pour vous montrer vraiment comment Dieu a agi dans la vie de certaines personnes. Fait que j'ai pensé partager un petit peu de moi-même. Il y en a qui me connaissent, il y en a qui ne me connaissent pas vraiment. C'est ça, j'aimerais... Parler un petit peu qu'est-ce que j'ai appris durant les 10 dernières années. En 1999, j'ai marié, Joël et moi, on s'est mariés. Et quelques mois après, environ 3 mois après, j'ai eu un diagnostic que je ne m'attendais jamais. J'ai eu un diagnostic de maladie de Crohn. Pour ceux qui ne savent pas qu'est-ce que c'est l'inflammation dans les intestins. C'est une maladie qu'on dit chronique et c'est des ulcères dans les intestins. C'est très douloureux. Et ça vient par vague. Et c'est ça. Alors, moi, j'ai été en état de choc quand j'ai appris ça. Je ne m'attendais jamais qu'on me dirait ça. Et je me suis trouvée devant un choix. Soit que moi, j'ai refusé la maladie. Moi, c'était comme... J'ai été en état de choc au début, mais j'ai fait... Non, mauvaise réponse. Pour moi, c'était clair quand on m'a dit « c'est une maladie chronique », là. J'ai fait comme, moi, c'est pas vrai, j'aurai pas ça toute ma vie. Mais moi, je viens d'un background où on ne m'a pas enseigné sur la guérison. Je connaissais pas qu'est-ce que Dieu disait vraiment. Alors, en tout cas, moi, qu'est-ce que j'ai appris par la suite, c'est que vraiment, qu'est-ce que je savais à ce moment-là, c'était que Dieu est bon et le diable est mauvais. Ce qui est bon vient de Dieu et ce qui n'est pas bon ne vient pas de Dieu. Même mes enfants, autres comme ça, ils savent que si c'est pas bon, ça vient pas de Dieu. Et si c'est bon, ça vient de Dieu. Et moi, c'est quelque chose que je voulais leur enseigner dès le jeune âge. Alors, je me suis trouvée devant cette situation, ce diagnostic de maladie, je me suis trouvée devant un choix. Est-ce que je choisis de croire la tradition qui dit... Vis là ta souffrance ou est-ce que je me tourne vers la parole de Dieu puis je veux vraiment voir qu'est-ce que Dieu dit de ça? Alors, j'ai trouvé dans Deutéronome 30, 19, c'était écrit. J'en prends aujourd'hui à témoin contre vous le ciel et la terre. J'ai mis devant toi la vie et la mort, la bénédiction et la malédiction. Choisis la vie afin que tu vives, toi et ta postérité. Alors ici, on voit, c'est vraiment écrit « choisi ». C'est un choix. Et moi, j'ai choisi la vie. OK? J'ai choisi la vie et la parole. C'est écrit dans Proverbes 4, 20 à 22. « Mon fils, sois attentif à mes paroles. Prête l'oreille à mes discours. Qu'ils ne s'éloignent pas de tes yeux. Garde-les dans le fond de ton cœur, car c'est la vie pour ceux qui les trouvent et c'est la santé pour tout leur corps. » C'est la vie pour ceux qui les trouvent. Trouve, c'est écrit « trouve » ici. Ça veut dire qu'en quelque part, peut-être qu'il faut chercher. Peut-être qu'ils ne vont pas nous sauter en pleine face, là, ces paroles-là. Alors, il faut chercher dans la parole de Dieu ses promesses. Et c'est la santé pour tout leur corps. Alors, Dieu est en train de dire que sa parole est la santé pour notre corps. Alors, moi, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai tout pris qu'est-ce que... on pouvait me donner sur la guérison divine. J'ai lisais des revues, j'écoutais des enseignements, j'ai mis des petits versets partout dans ma maison. J'étais souvent aux toilettes, alors j'en ai mis plein dans ma salle de bain, dans mon miroir, sur mes portes d'armoire, il y en avait partout chez nous. OK? Parce que ça dit qu'il ne s'éloigne pas de tes yeux. Alors moi, je m'arrangeais pour partout ce que j'étais dans la maison, que je vois les promesses de Dieu sur la guérison. Moi, quand j'ai appris ça, je peux vous dire, vous ne serez peut-être pas d'accord, mais moi, je n'étais pas intéressée de savoir tout c'était quoi la maladie de Crohn. Moi, j'étais intéressée de savoir qu'est-ce que Dieu disait. J'étais intéressée de savoir c'était quoi les promesses. Je n'étais pas intéressée, oui, je me suis intéressée à savoir le minimum, je vous dis là. Le minimum, parce que moi, ce n'était pas ça qui m'importait. Je me suis dit, je peux passer des heures et des heures à connaître les horreurs qui vont m'arriver, que les médecins disent qui vont m'arriver. Je peux passer des heures et des heures à savoir c'est quoi les symptômes qui pourraient peut-être me tomber dessus. Mais moi, j'ai choisi de renouveler mon intelligence avec la parole de Dieu. Parce que c'est la parole qui nous rend libres. Alors, j'ai même pris ma Bible avec les enseignements que j'ai reçus. J'ai absolument tout souligné, j'en ai peut-être manqué, là, mais de ce que j'ai reçu, j'ai pris la Bible de Genèse à l'Apocalypse et tous les versets de guérison et concernant la vie, les promesses de Dieu sont soulignés en rouge dans ma Bible. Alors, j'ai rien qu'à peine d'ouvrir, c'est une urgence, n'importe quoi, c'est là, c'est rapide. Alors, moi, c'est ce que j'ai fait. Moi, je me suis approprié les promesses tout de suite pour moi. Et qu'est-ce que j'ai appris aussi avec le temps, c'est que j'ai appris à résister aux symptômes. Peut-être que vous avez jamais entendu parler de ça, mais dans Jacques 4, 7, ça dit « Résistez au diable et il fuira loin de vous ». Alors, résister au diable, ben si je sais que la maladie ne vient pas de Dieu, les symptômes que je vis ne viennent pas de Dieu non plus. Alors, moi, j'ai appris à résister aux symptômes. La maladie de Crohn, ben ça passe, ça vient. Alors, au début, je pouvais avoir des symptômes qui duraient, ça pouvait durer une semaine, deux semaines, mais à force que j'ai appris, c'est comme un muscle, hein? À force de résister, c'est quelque chose c'est comme la foi, c'est quelque chose qui se pratique, OK? Et c'est ça. Les symptômes se sont mis à durer de moins en moins longtemps. Les crises sont mises à durer de moins en moins longtemps. Et j'ai vécu des temps difficiles, mais j'ai vraiment, en tout cas, je me suis toujours dit, peu importe c'est quoi les symptômes, la vérité de la parole de Dieu est beaucoup plus réelle que qu'est-ce que je vis moi dans mon corps. Qu'est-ce que la parole dit de moi est plus réelle que la douleur que je vis présentement. Si Dieu dit par tes meurtrissures, vous avez été guéri, ben par les meurtrissures de Jésus, j'ai été guéri. Ça, c'est plus réel que la douleur que je peux avoir. Et la parole de Dieu aussi dit que c'est les violents qui s'emparent du royaume de Dieu. Bien, les violents, moi, je me suis dit, j'ai pris... Avant, je ne comprenais pas ce que ça voulait dire, que les violents s'emparent du royaume des cieux. Et à travers ça, j'ai vraiment compris ce que ça voulait dire. Moi, j'ai pris les paroles de Dieu avec violence, je les ai déclarées avec violence. Et vraiment, je peux vous dire que c'est une réalité qu'on peut vivre, que tout le monde peut vivre. Et alors moi, qu'est-ce que j'ai fait? Je me suis vraiment saturée de la parole de Dieu. Je me suis disposée à être imbibée de ses promesses. Et tu sais, quand on tombe malade, là, souvent notre première réaction, c'est d'aller à la clinique ou d'aller à l'hôpital. On est prêt à attendre des heures et des heures pour voir le médecin. Mais moi, j'ai appris que mon médecin, c'était Jésus. Je suis déjà allée là, à l'hôpital. Je ne suis pas contre les hôpitaux. Mais on est prêt à attendre beaucoup d'heures pour aller voir le médecin. Mais est-ce que moi, je me suis dit, ben si je suis prête à attendre beaucoup d'heures pour voir le médecin, ben je suis prête à mettre beaucoup d'heures dans ses promesses, à m'imbiber de sa parole de Dieu, parce que ça dit que c'est la vie et la santé pour mon corps. Vraiment, Dieu est bon. Je peux vous dire, là, en 10 ans, j'ai jamais eu d'opération. Ça, souvent, les gens vont se faire enlever des morceaux d'intestin. J'ai jamais vécu d'opération. Moi, j'ai dit, jamais je vais me faire enlever Et vraiment, Dieu est bon. Le dernier rapport que j'ai eu, ça fait 10 ans que je m'appuie sur la parole. J'ai passé des tests dernièrement parce qu'on était en Alberta. Puis quand je suis revenue, mon médecin était intéressé de savoir comment que j'allais, le médecin qui me suivait avant. Et j'ai passé 2 examens. Et juste pour vous dire, avant un de ces examens-là, j'étais à Montréal, j'étais à l'hôpital dans la salle d'attente. Et vraiment, Gloria Copeland, c'est une de mes mentors pour... qui m'a vraiment enseigné la guérison divine dans les dernières années. Et je l'ai tellement entendu que, je priais, j'étais vraiment remplie d'une paix. Je n'étais pas inquiète du tout. Et c'est comme, j'étais vraiment dans une bulle en attendant mon tour. Et là, j'ai entendu sa voix, je vais vous dire en anglais, puis je traduirai après. Elle disait, « His love and His mercy endures forever. His love and His mercy endures forever. » Ça veut dire son amour et sa miséricorde durent à jamais. Et là, vraiment, la paix de Dieu m'envahit. Là, j'étais vraiment dans une bulle. J'étais vraiment touchée de sa présence. J'avais les yeux pleins d'eau. Puis là, le médecin est venu me chercher. Pouf, là, ma ballonne a comme pété, tu sais. Puis là, il a vu mes yeux pleins d'eau. Puis là, je pense qu'il a pensé que j'étais inquiète, tu sais, parce qu'il a vu que j'avais des larmes. Mais c'était pas ça du tout. C'était pas ça du tout. Et... qu'est-ce que l'examen a révélé après? Il vient me voir et dit, « T'as vraiment aucune maladie active dans tes intestins. » Il dit, « Tout ce que je vois, c'est des cicatrices. » Il dit, « Tu n'as que des cicatrices. Vraiment, en tout cas, ça m'a vraiment bénie parce que pour moi, c'était comme, « Merci Seigneur. » C'est comme toutes ces années-là, c'est un combat de la foi, je peux vous dire. Oui, Jésus a acquis pour nous à la croix, mais c'est un combat pour avoir les approprier. Et vraiment, ça m'a tellement bénie. Puis je l'ai revu dernièrement, juste routinier, une petite visite de routine. Puis là, il me dit avec son accent, « Alors Mathilde, là, tu prends aucun médicament? » Moi, j'ai choisi de ne pas prendre de médicament il y a des années parce que les médicaments me rendaient plus malade que la maladie elle-même. Fait que moi, j'ai fait comme, mon médicament, c'est la parole de Dieu. Je ne suis pas en train de vous dire de ne pas prendre de médicaments, c'est pas ça du tout. Pour moi, les médicaments ne fonctionnaient pas. Alors moi, je me suis appuyée sur la parole de Dieu, puis je me dis, la parole de Dieu, ça va être vraiment mon médicament. Puis là, il me dit ça. Alors Mathilde, là, tu ne prends aucun médicament, là, avec son accent. Je dis, ben non, docteur Bouton. Il dit alors, incroyable. Là, il secouait la tête, incroyable. Incroyable. Mais tu prends vraiment aucun médicament, là. Aucun. Aucun médicament, docteur Bouton. Alors là, là. Alors, il était vraiment ébloui. Alors, en tout cas, vraiment pour moi, je peux vous dire que Dieu est vraiment bon. S'il peut le faire pour moi, il peut le faire pour vous. Puis, en tout cas, Dieu, je pensais à ça en venant quand je m'en venais ce matin. Comme mon mari a dit, on est vraiment du même esprit. S'il y a une chose que vous pouvez retirer de cette école de guérison, c'est que Dieu est infiniment bon. Dieu est infiniment bon. Autant qu'on ne voudrait pas voir nos enfants malades, Dieu ne veut pas vous voir malade. C'est son cœur, c'est le cœur même de Dieu. La guérison n'est pas une doctrine, c'est le cœur même de Dieu. Alors, recevez ça ce matin. Soyez bénis. Merci.
Gloire à Dieu. Amen. Merci. C'est bénissant d'entendre un témoignage comme ça. Moi, je l'ai déjà entendu. J'ai eu un scoop, mais je vis avec, hein? Ça fait que je vis avec elle. On a vécu ça ensemble pendant 10 ans. Il y a des gens qui ont dit, mais pourquoi vous acceptez pas la maladie? Ou pourquoi vous croyez que Dieu veut toujours qu'on soit guéri? Bien, dans notre choix, c'est pas une question, quelle doctrine que je vais choisir? On n'a pas le choix. Nous, on n'a pas le choix que de croire dans la guérison divine. Et comme ma femme m'avait expliqué, c'est une bataille. Et oui, toutes les promesses de Dieu sont oui et amen, mais ce sont les violents qui s'en emparent, hein? C'est les violents qui s'emparent du royaume de Dieu. Puis il y a des gens aussi qui diraient, bien, si vous croyez que Dieu guérit toujours, vous êtes superficiel dans votre doctrine parce que vous n'avez pas lu l'histoire de l'écharpe dans la chair, vous n'avez pas lu l'histoire de Job dans la Bible. Et qu'est-ce qu'on va faire pendant l'école de guérison? On va s'adresser à ces passages-là parce que des fois, on peut penser, bien, sont superficiels parce qu'ils n'ont pas remarqué qu'il y a plein de personnes de malades dans la Bible. On va regarder, on va se pencher sur ces personnages-là pour voir est-ce qu'il y a une façon qu'on peut comprendre ça à la lumière de la parole de Dieu. Est-ce que Dieu nous dit d'un côté, je veux que vous soyez guéris, que par ces meurtrissures vous avez été guéris, et de l'autre côté, en même temps, mon école, c'est le cancer ou la maladie. Dieu se contredit pas. Par contre, les êtres humains, eux, se contredisent, et des fois, on peut mal interpréter la parole. Et même, comme j'ai dit la semaine passée, il y a des textes dans notre Bible, en Louis II, qu'on a vu la semaine passée, c'était des mauvaises traductions, qu'il y avait des paroles même de rajouter, comme dans Jean 9, vous vous en rappelez, c'est afin que la personne soit guérie, mais finalement, cette afin n'existait pas dans le texte, c'était, Jésus disait qu'il soit guéri, simplement. Alors, on va se pencher vers d'autres passages tout au long de l'école de guérison, mais aujourd'hui, c'est spécial, parce qu'on va avoir d'autres témoignages. Mon père, cette semaine, j'étais chez eux, on parlait ensemble, puis il me racontait un petit peu les témoignages de guérison qui a vécu dans sa vie en priant pour les malades. Alors, je vais inviter mon père maintenant. Il va partager un petit peu que oui, c'est disponible pour n'importe qui veut oser croire. Vous savez, là, on est tous appelés au ministère de la réconciliation, n'est-ce pas? Nous sommes tous appelés. Tu peux t'approcher, papa. Nous sommes tous appelés à ce ministère-là. Et des fois, les gens pensent que la réconciliation, c'est simplement d'emmener des gens à la connaissance de Jésus-Christ. Et ça en fait partie, mais on réconcilie l'âme à Dieu, on réconcilie l'esprit et le corps à Dieu. Alors, on est tous appelés à ce ministère-là. Amen. Amen.
Je remercie que Jésus est dans la maison ce matin. Je sens sa présence et il veut toucher tous les bobos, et toutes les maladies, et tous les combats, ils vont les prendre. Je suis fier de parler de Jésus parce que vraiment, j'avais 18 ans. Je suis âgé un peu plus que 18 ans ce matin. J'étais à Montréal, puis un de mes amis était à l'hôpital. Il avait subi une opération. Je me suis rendu à l'hôpital et puis il était inconscient, il était sur l'effet des médicaments, puis il dormait dans sa chambre, il dormait dans son lit d'hôpital. Et quand je me suis présenté à côté de son lit, c'est comme un inconnu. Et puis je n'ai pas resté longtemps dans la chambre puisqu'il dormait. Et puis j'ai sorti, j'ai passé dans le corridor. J'ai vu un homme qui marchait, puis il était bien concentré. Et je lui ai dit, « Pourquoi vous êtes ici, monsieur? » Il m'a dit, « C'est à cause de mon garçon. » Il dit, « Vous voyez la chambre qui est là? Vous entendez le bruit? » Il dit, « C'est mon garçon qui est là. » Il a dit, « Il a 21 ans. C'est un chauffeur de camion qui partait dans le coin de Toronto. Il a emmené la tourbe sur un camion pour l'Expo 67. Et rendu à Dorion, l'accident s'est produit. Un train l'a frappé le camion. Et puis, il y avait la mâchoire toute défaite. Il y avait des côtes de cassées. Il y avait les jambes brisées dans le traction et dans le plâtre. Et puis, quand je suis arrivé le vendredi soir, le père de famille m'a dit, il vient de mettre un appareil dans la gorge pour qu'il puisse respirer mieux. Et puis, depuis ce temps, la température de son corps a monté, puis le pouls a aussi monté. Puis, des paroles qui m'ont choqué, c'est que cette paire de famille-là, il dit, mon garçon était un bon chauffeur. J'ai dit, il n'est pas mort. Mais ces paroles m'ont frappé. Fait que j'ai dit à M. King, son nom, j'ai dit, je retourne à la maison, puis j'ai dit, je prie pour votre garçon, pour que Dieu mette sa main sur lui, puis que vous ne perdez pas votre garçon cette nuit. Je retourne à la maison et je vais vous dire honnêtement, là, j'ai pris le téléphone et j'ai appelé d'autres chrétiens, j'ai dit, je veux que vous priez pour cette garçon à l'hôpital parce que son père est bien inquiet de perdre son enfant cette nuit. Puis j'ai dit, Seigneur, j'ai 18 ans, j'ai pas d'expérience dans la vie pour 5 sous. Je te prie de guérir cet enfant-là. Et puis, on a prié comme ça au téléphone, puis ça a été fini. Le lendemain, je suis retourné à l'hôpital. J'ai rencontré le père encore. Puis j'ai dit, « Puis, comment ça va, votre garçon, dans la chambre? » Il m'a dit, la température puis la poux, on commence à baisser. Là, j'ai dit, « À quelle heure? » Il m'a dit, « 9h15. » J'ai dit, « Savez-vous, c'est écrit dans la Bible que Dieu a guéri dans la même heure. » J'ai dit, « C'était dans la même heure que nous avons prié. » Ah oui? Et puis, j'ai continué à retourner à l'hôpital, à tous les soirs. Au bout d'une semaine, M. King m'a dit, « J'ai quelque chose à vous demander. Voulez-vous continuer à visiter mon garçon parce qu'il faut que je retourne en Ontario à mon travail. Je ne peux plus rester ici à l'hôpital. » J'ai dit, « Oui. Je vais rester. Je vais revenir. » Et ça fait que son père est parti au travail et je suis rentré dans la chambre de l'hôpital et puis le garçon, John, il a pris connaissance, les choses allaient mieux, mais il m'a raconté une fois en grande tristesse, les os dans ma jambe sont bout à bout, mais ils ne guérissent pas. Puis là, ils veulent m'opérer. Puis je suis tout inquiet. Puis il avait les larmes aux yeux. Je lui ai dit, dans la chambre d'hôpital, j'ai dit, « John, Dieu commence à vous guérir. » Puis j'ai dit, « Il n'est pas fini avec toi. » J'ai dit, « Ces deux os-là, Dieu va guérir ça. » J'ai pris mes deux mains sur la plâtre, les jambes en traction. J'ai dit, « Seigneur, guéris ces jambes-là. » Et puis, j'ai prié en l'hôpital. Puis, je sais pas, peut-être le petit garçon dans l'autre lit m'a entendu prier. Et puis, je retourne à la maison. Et quelques jours après, je suis retourné, puis il y avait le gros sourire. J'ai dit, « Pourquoi tu es heureux comme ça, toi? » Il m'a dit, « Parce qu'ils m'ont examiné la jambe encore, puis les os commencent à guérir ensemble. J'ai plus besoin d'une opération. » J'ai dit, « Seigneur, merci, parce que c'est comme ça que tu fais. » Et quelques jours plus tard, quelques temps plus tard, il y avait de la peine. Je rentre dans la chambre le soir, son corps était gros, puis il s'inquiétait beaucoup. Et j'ai dit, « Pourquoi que tu es triste? » Il m'a dit, « Ben à cause qu'ils me disent qu'une jambe va être plus courte que l'autre. » Je lui ai dit, « Oublie ça. » J'ai dit, « Seigneur va faire le job au complet avec toi. » J'ai dit, « C'est pas avec une jambe plus courte que l'autre que tu vas sortir de l'hôpital. » J'ai dit, « Tu vas sortir en santé, puis tu vas être bien. » Et j'ai encore mis mes mains sur ses jambes, puis j'ai prié pour ses jambes-là, puis j'ai dit, « Seigneur, fais qu'il y ait les deux jambes égales. » Et puis, une journée, en sortant de l'hôpital, après des heures de visite, j'ai vu une femme, toute seule dans une chambre avec un... Elle était comme couchée, comme dormie, endormie, mais j'ai demandé à une religieuse, j'ai dit, « Pourquoi cette femme-là est-elle dans cette condition-là, dans la chambre? » Elle a dit, « Ben, c'est parce que cette femme-là a eu un accident face à face, puis elle a perdu conscience, et dans le coma, ça fait plusieurs journées. » Fait que, j'ai dit, « Merci beaucoup. » J'ai retourné à la maison, j'ai dit, « Seigneur, réveille-la, retourne-la à la maison. » Fait que je retournais voir le garçon, John. Dieu l'examen de ses jambes, on rêvait, par les docteurs, on dit ses deux jambes vont être égaux et qu'il va être debout sur ses deux pieds avec aucun talon en dessous d'un soulier ou quoi que ce soit et qu'il va être complètement parfait dans sa santé. Et une chose que j'ai remarqué aussi, c'est que quand j'ai quitté l'hôpital, j'ai regardé la chambre à côté et il n'y avait plus personne dans la chambre. J'ai allé voir une religieuse, j'ai dit « qu'est-ce qui s'est passé dans la chambre à côté? » Elle a dit « la madame qui était là, dans le coma, elle s'est réveillée et est partie chez elle. » J'ai dit « gloire à Dieu. » Amen. Et c'est pour vous dire que j'ai passé un été béni. J'ai passé un été à expérimenter Dieu et j'avais, on va dire, à 18 ans, là, j'avais pas de cours biblique, j'ai dit, Seigneur, c'est toi qui le fais. J'ai été dans l'hôpital, j'ai imposé mes mains sur ses jambes de plâtre en traction, puis j'ai parlé en langue, puis j'ai dit, Seigneur, tu vas guérir ces deux jambes-là, tu vas guérir sa vie. Et savez-vous quoi? Je suis retourné un soir à l'hôpital, j'ai fait deux mois à l'hôpital comme ça, soir après soir. Et à ma grande surprise, après deux mois, je suis rentré dans la chambre où ce qu'il était. Il était parti. Je me suis informé. J'ai dit, qu'est-ce qui s'est passé? Il dit, parti chez eux, en Ontario. Et savez-vous quoi? Plus tard, après cette expérience-là, je l'ai vu debout, en Ontario, sous son travail. Puis j'avais la misère à le reconnaître parce que j'étais tellement habitué de le voir coucher dans le lit de l'hôpital que quand je l'ai vu debout sous mes yeux, j'ai dit « OK, c'est bien ça ». Puis je l'ai vu en parfaite santé. Puis j'ai dit « Merci Seigneur parce que, on va vous dire quelque chose, Dieu est un guérisseur, il fait ça par vos mains et puis gloire à Dieu, le Seigneur n'a pas changé de programme, il est encore le même Jésus ce matin. Gloire à Dieu. »
Amen. Amen. Gloire à Dieu. Et savez-vous, une des choses qu'on peut remarquer, j'ai invité les gens, ils vont venir partager également ce matin. Vous avez plein de cadeaux du ciel hein, ce matin. Mais une des choses qu'on peut remarquer, comment c'est simple hein, de recevoir la guérison et d'exercer le ministère de guérison. Il y a des gens qui pensent qu'il faut avoir un don spécial pour prier pour les malades. Mais on n'a pas besoin d'un don spécial parce que savez-vous, les dons de l'esprit ne nous appartiennent pas. Tous les dons du Saint-Esprit appartiennent à Dieu et Dieu nous donne le don qu'on a besoin au moment qu'on a besoin. Si quelqu'un est malade à l'hôpital, il vous donnera pas nécessairement une parole prophétique pour la personne. Son besoin numéro un, probablement, c'est d'être guéri, n'est-ce pas? Alors c'est merveilleux d'être juste disponible entre les mains de Dieu pour le besoin qui est là. Une des choses, pendant que Jean s'approche, il y a deux choses qui empêchent la guérison, l'incrédulité et les traditions. Des fois, qu'est-ce qu'on fait? On est tellement compliqué, c'est soit on ne croit pas la parole ou les traditions étouffent la parole de Dieu, étouffent notre foi. Mais ce matin, on était en train d'apprendre que n'importe qui peut prier pour les malades et on peut voir les malades guéris et on peut être guéri soi-même. Amen.
Merci, Joël. C'est bizarre parce que quand tu arrives à derrière la chair, tu as comme le goût de prêcher. Il y a une onction. Mais je ne ferai pas ça, je vais prendre juste un peu de temps pour vous parler d'une guérison. La semaine passée, j'ai parlé d'une guérison qui était assez récente. J'en ai d'autres récentes. Mais aussi, quand Joël m'a demandé, tu sais, t'as des témoignages, j'ai fait comme, je n'ai plein. T'sais. Puis quand je me mets à me dire que les bienfaits que Dieu a fait dans ma vie, ça me fait comme exploser. J'ai rien que le goût d'y raconter. Fait qu'on pourrait faire une réunion complète, je pense, avec plein de témoignages. Je vais vous en compter un qui est arrivé relativement à environ 9 années. Quand j'étais jeune, moi, j'étais extrêmement malade vers l'âge de 6 ans. Donc, je suis ici aujourd'hui, c'est déjà un miracle. Le miracle de la foi de ma mère et de mon père qui ont choisi Dieu comme Mathilde au lieu de choisir la médecine, qui ont choisi de mettre de côté le verdict du médecin et de croire en Dieu et d'appeler la vie sur ma vie. Et puis aujourd'hui, bon, je suis là. Mais ça, c'est une autre chose que je vous conterai un autre tantôt. Ça pourrait être long, ça aussi. Mais suite à ça, j'ai été guéri cette fois-là. Et puis, voilà environ 9 ans, j'étais dans mon lit. Et puis, je me suis mis à faire une crise d'asthme. Est-ce qu'il y en a qui ont déjà fait de l'asthme ici? Bon, vous allez savoir de quoi je parle. Il arrive un temps où ce que là, c'est comme tu es couché à terre, il y a quelqu'un de bout sur ton estomac qui saute de même, puis tu essaies de respirer. Il y a un filet d'air. Fait que je me suis assis dans mon lit. Mon épouse s'est couchée à côté de moi. Puis là, à ce moment-là, j'ai vraiment cru que je mourrais. Là. C'était vraiment ça. J'ai dit, Seigneur, tu sais, mais sans jamais paniquer. Je sais pas, j'étais environné d'une paix qui était celle. Normalement, j'aurais dû paniquer, frapper ma femme, appeler l'ambulance, let's go, on part, tu sais. Ben, un, j'aurais pas été capable d'y dire, mais j'aurais pu faire des signes, t'sais. Parce que là, tu es là. Puis là, assis, tu es un peu mieux que couché. Couché, c'est impossible de respirer. Et puis, bon, là, je suis dans cet état-là, mais un état de paix. Et puis là, j'ai regardé mon épouse. Je me suis rendu compte que j'étais donc chanceux. Et puis, mais c'est peut-être pas ça mes pensées, finalement. J'ai regardé mon épouse, et puis c'est sûr que je voulais encore partager du temps avec elle. Et puis là, j'avais l'impression que c'était mon heure. Fait que j'ai dit, Seigneur, si c'est le temps que je parte, viens me chercher, tu sais, je vais partir. Mais c'est écrit dans la Bible aussi, vous serez rassasiés de longs jours. Puis là, 10 ans, j'avais à peu près 14 ans, tu sais. Fait que j'étais pas encore rassasié de longs jours. Donc, je me suis dit, bon, c'est pas ça. Mais je suis rentré dans un état de louange où je dis, Seigneur, tu m'as guéri à la croix. J'ai choisi la guérison. Je dis, Seigneur, tu m'as guéri à la croix. Tu m'as guéri quand j'étais jeune de trucs pareils. C'est pas vrai qu'aujourd'hui, Satan va venir me dire que je peux t'enlever la vie avec ces niaiseries-là. Je suis rentré dans un chant qui m'est venu tout de suite en tête. J'ai commencé à chanter dans tes bras d'amour du Seigneur. Tu sais. Et puis, je me suis endormi dans une paix incroyable et je n'ai jamais eu d'autres problèmes à ce niveau-là. Fait que je remercie le Seigneur. Et puis, il prend toutes sortes de façons pour venir nous toucher, venir nous guérir. Mais encore une fois, moi, c'est sûr que vous allez me dire là, que j'ai un petit parti pris, mais je crois que dans la louange à Dieu, quand on y remet les choses, quand on le remercie pour qui il est, pour la grandeur dont il est, je vais me tasser, je vais prêcher. Là. Bon, ça fait qu'il vient nous toucher, il vient nous guérir. Fait que je veux remercier Dieu là-dessus et puis je sais que c'est disponible pour chacun de nous autres. Amen.
Gloire à Dieu. Amen. Vous savez, c'est pas juste la guérison, c'est pas juste de quoi qu'on croit, c'est de quoi qu'on vit. Hein? C'est une chose de vivre la religion chrétienne évangélique, c'est une autre chose d'expérimenter la présence de Dieu puis de vraiment vivre les promesses de Dieu. Hein? C'est quoi? On n'est pas appelé à simplement croire un livre et dire « Ah oui, c'était très bien, Dieu faisait les grandes choses dans le passé, wow, il va en faire dans le futur, à l'avenir, il va faire des choses. » Mais aujourd'hui, je peux m'attendre de vivre quelque chose avec Dieu. Amen. Aujourd'hui, pas remettre ça à demain, aujourd'hui. Et l'ennemi de nos âmes, qu'est-ce qu'il veut faire? On a entendu des beaux témoignages ce matin qui démontrent la réalité de la guérison encore aujourd'hui. Mais qu'est-ce qu'il veut faire? C'est vous permettre de croire que Dieu l'a fait pour les autres ou qu'il l'a fait dans le passé, mais que pour vous, vous êtes l'exception et que Dieu va passer par-dessus vous. Ça, c'est le truc, une des façons qu'il va le faire. Ben, il va vous faire croire toutes sortes de choses au sujet de Dieu. Donc, pour vous faire incrédule, vous rendre incrédule, ça, c'est une des choses, pour vous faire douter les promesses de Dieu. Ou l'autre chose, c'est qu'il peut vous permettre de lire votre Bible et dire, oui, c'est écrit, oui, ah, gloire à Dieu, amen, amen, mais vous avez 10 000 traditions qui mettent des barrières entre vous et la promesse. Et savez-vous, si vous êtes de l'autre côté de la promesse est là-bas, mais vous avez toutes ces barrières-là traditionnelles, mais finalement, l'ennemi gagne quand même. Il vient neutraliser votre foi et vous ne pouvez pas vous attendre de recevoir de la part de Dieu à cause des traditions. Et c'est pour ça, dans la parole de Dieu, Jésus a dit aux pharisiens, vous annulez ainsi la parole de Dieu par votre tradition. Donc, qu'est-ce qu'on a besoin de faire? C'est d'enlever les mauvaises traditions et de croire la parole de Dieu et d'être également des gens qui vont écouter la parole, mais également faire la parole. Alors, ce matin, je vais vous inviter à tourner dans Jacques chapitre 1. Et pendant que je prêche pendant 2 ou 3 heures ce matin, on va développer votre foi à ce niveau-là. Non. 2, 3 heures, non. Amen. Il me reste quelques temps. On va passer juste un petit peu de temps ce matin. On va donner le temps que le Seigneur a besoin, sauf on sait que c'est l'action de grâce, et puis on va vous relâcher pour remercier le Seigneur pour votre santé et pour remercier le Seigneur pour vos familles également. On va respecter ça, mais on veut vous rappeler également que c'est important de déposer la parole de foi dans vos cœurs pour recevoir la guérison. C'est tellement important de pas douter Dieu. Et comme mon épouse disait, si vous allez attendre à l'urgence 5-6 heures pour voir un médecin, bien peut-être cette semaine, vous pouvez prendre 5-6 heures dans la parole de Dieu pour nourrir votre esprit, pour croire la guérison divine. Et c'est pas le temps, dans la tempête, de commencer à bâtir le bateau, mais c'est aujourd'hui, quand ça va bien, il faut bâtir ce bateau de foi pour pouvoir résister à l'ennemi. Et une des choses là, que je peux vous partager, quand j'étais jeune, je voyageais avec mon oncle Daniel, qui est pasteur, et puis il travaillait comme évangéliste. Moi, j'étais son chanteur gospel. Et quand je me promenais avec lui, je voyais qu'il priait pour les malades, et il y avait beaucoup de malades de guéris. Entre autres, il y avait un homme qui était aveugle. Mon oncle a prié pour lui, qui recouvre la vue, et il a été guéri instantanément. Ça, c'est en Haïti. Moi, j'ai vu ça, j'étais adolescent. Ensuite, je retournais à l'école et on me disait que, vous savez, on était des descendants de singes et puis que Dieu n'existait pas. Alors moi, je peux vous dire, je croyais pas ça. Je savais que Dieu vivait, que Dieu était pas simplement un personnage dans un livre, mais qu'il était vraiment vivant. Jésus est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Et je le savais dans mon cœur, sauf j'avais quand même des questions au niveau de la guérison parce que des fois, mon oncle priait pour quelqu'un et la personne n'était pas guérie. Alors, je me posais, mais comment ça, des fois, on voit un aveugle qui voit, une autre personne reste malade. Et je me penchais sur plein de questions et j'étais dans une place dans ma vie spirituelle où je pouvais pas vraiment m'attendre à Dieu parce que j'étais bourré de questions qui m'enlevaient la foi. Je ne sais pas si vous avez déjà été là. Alors ce matin, qu'est-ce qu'on va faire? On va juste commencer ensemble à regarder quelles sont les choses des fois qui empêchent la guérison dans nos vies. Quelles sont les choses qui peuvent être une muraille? Et qu'est-ce que je vais vous dire tout de suite? C'est toute une gang de traditions. C'est carrément juste ça. Et peut-être vous allez vous voir et dire, est-ce que moi j'ai cette tradition-là qui m'empêche de recevoir? Et si c'est le cas, si vous avez des traditions qui annulent la parole, vous êtes à la bonne place ce matin parce que vous pouvez faire le ménage. On va laisser le Saint-Esprit faire le ménage dans nos vies pour qu'on puisse non seulement croire la parole de Dieu, mais la vivre également. Amen. Et puis si vous quittez cette place, puis là vous vous dites, ah bien là j'ai compris de quoi. Une des choses qu'on veut faire, c'est vous encourager à marcher toujours dans la compassion que Jésus avait. Tous les dons du Saint-Esprit sont toujours exercés par l'amour, jamais par le jugement. Qu'est-ce qui est vraiment dangereux quand on enseigne la guérison divine? C'est qu'il y a des gens qui entendent le message et qui deviennent tout d'un coup des superstars spirituels qui se disent, là, je vais évaluer la foi de tout le monde et puis là, je vais commencer à juger la foi des gens et là, ça devient des chrétiens arrogants. Et on veut pas avoir une église d'arrogants. On veut avoir des gens qui sont pas dans la tradition, qui se font voler, mais de l'autre côté, on veut toujours demeurer dans cette dimension de la compassion et l'amour de Dieu où il y a zéro jugement. S'il y a quelqu'un de malade, on dira pas, t'as-tu du péché dans ta vie? T'as-tu fait ci? T'as-tu fait ça? Ou, ah, peut-être toi, t'es pas assez spirituel. Jamais, j'espère en tout cas. Je le décrète au nom de Jésus, ça n'arrivera pas. S'il y a quelqu'un de malade, la seule responsabilité que Dieu nous dit, c'est prier pour les malades. C'est tout. Dieu nous dit pas, devenez les évaluateurs de tout le monde. Non, c'est pas biblique. Dieu nous appelle à aimer les gens, prions avec les gens, le reste, ça appartient à Dieu. Mais Dieu nous dit d'être responsable au moins de la prière. Alors, si on fait ça, on a fait notre partie. Amen. Donc, zéro jugement, plein d'amour. Dans Jacques, chapitre 1, versets 22 à 25, c'est dit, « Mettez en pratique la parole et ne vous bornez pas à l'écouter. » En vous trompant vous-même par de faux raisonnements, n'étant pas un auditeur oublieux au verset 25, mais se mettant à l'œuvre, celui-là sera heureux dans son activité. Si vous voulez être heureux comme un enfant de Dieu, bien certainement vous devez entendre la parole de Dieu parce que la foi vient de ce qu'on entend et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Donc faut l'entendre, faut l'écouter, mais faut pas se borner à simplement écouter la parole de Dieu, faut en même temps marcher dans la parole de Dieu et s'attendre que ce que Dieu dit est vrai. Amen. Donc, on veut pas juste être des auditeurs oublieux, parce que si on est juste des auditeurs oublieux, qu'on croit dans un message, mais on le vit pas, on devient religieux. Et on peut être aussi religieux que n'importe quelle association d'église. Vous savez, on peut juste dire oui, Dieu guérit. Des fois, de temps en temps, quand ça tente, on sait jamais, on peut pas s'attendre à la guérison parce que finalement, on sait jamais. Peut-être toi il veut, peut-être toi non. Finalement, faut vraiment revenir à la parole et voir qu'est-ce que Dieu dit. Et une des choses qu'on doit comprendre, c'est que la guérison divine commence dans l'âme. C'est l'endroit où Dieu commence à travailler la guérison. Et votre âme, c'est vos pensées, votre volonté et vos émotions. Et dans vos pensées, si vous êtes hors track, c'est pas une bonne chose. il faut ramener toutes nos pensées captives à l'obéissance de Christ. Et on va voir ça ensemble dans 3 Jean, chapitre 1, verset 2. Ça dit, « Bien-aimé, je souhaite que tu prospères à tous égards et sois en bonne santé comme prospère l'état de ton âme. » Votre âme, c'est justement ça, vos pensées, votre volonté, vos émotions. Si votre volonté est en accord avec la volonté de Dieu et vos pensées sont en accord avec la pensée de Dieu, déjà là, vous êtes bien parti. Amen. Donc, votre pensée, votre volonté et même vos émotions. Si vous avez l'amour de Dieu pour les gens qui sont malades, wow, vous êtes sur la bonne voie. Et dans Jacques, chapitre 1, verset 21, ça dit, « C'est pourquoi, rejetant toute souillure et tout excès de malice, recevez avec douceur la parole qui a été plantée en vous et qui peut sauver vos âmes. » Alors, le salut de nos âmes, c'est vraiment important. Et des fois, les gens pensent que le salut de l'âme, c'est simplement de passer de la mort à la vie. Non, l'âme, c'est pas l'esprit. Des fois, on peut confondre l'âme, l'esprit, le corps, mélanger tout ça. Mais il y a une séparation entre les trois. Et l'âme, c'est justement comment est-ce qu'on raisonne. Qu'est-ce qu'on croit? Alors, on doit être sauvé dans notre âme et on peut naître de nouveau et que notre âme a encore du chemin à faire. On a besoin d'être renouvelé. Dans Romains 12, verset 2, ça dit « Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. » Mais vous savez, l'ennemi, lui, veut amener toutes sortes de forteresses, toutes sortes de pensées erronées pour vous empêcher d'entrer dedans. Dans 2 Corinthiens, chapitre 10, 4 à 5, il est écrit « Car les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles, mais sont puissantes par la vertu de Dieu pour renverser des forteresses. » C'est quoi ça, une forteresse? Le texte le dit, verset 5, « Nous renversons les raisonnements. » Des forteresses, c'est des raisonnements et toute hauteur qui s'élève contre la connaissance de Dieu. Et nous amenons toute pensée captive à l'obéissance de Christ. Donc, c'est cette connaissance de la parole de Dieu. Qu'est-ce qui vient vous empêcher de recevoir la parole de Dieu? C'est justement des forteresses. Et qu'est-ce qu'on veut? On dit à terre ces forteresses-là. Au nom de Jésus, on va croire la parole de Dieu et uniquement sa parole. Amen. Donc, si vous êtes en accord jusqu'à date, là, on est en chemin pour recevoir la gloire de Dieu parmi nous. Amen. Donc, est-ce que vous êtes prêts? On va commencer à défaire quelques traditions. OK? On a quoi? 7 minutes. Est-ce qu'on a 7 principes dans 7 minutes? Est-ce qu'on va y arriver? Ma femme va dire, non, fais pas ça. Non, on va peut-être voir qu'est-ce qu'on peut faire ce matin. Mais vous savez, je trouve que c'est important d'avoir des témoignages comme ça, parce que ça aussi, ça stimule votre foi, n'est-ce pas? Mais une des choses qui circule dans le corps de Christ, et même si on ne le dit pas de notre bouche, d'une certaine façon, on y croit, c'est que Jésus est faible et que le diable est très, très fort. Et on parle du diable, comment il peut faire des grandes choses, puis le diable fait ci, le diable fait ça. C'est vrai, le diable fait des choses terribles, il est méchant, il est détestable, on ne l'aime pas. Mais Jésus n'est pas efféminé. Jésus n'est pas faible. Et des fois, on voit ce Jésus avec la petite brebis, avec les cheveux longs frisés, les beaux grands yeux bleus, quasiment avec du mascara, comme vous voyez des fois là, les photos de Jésus. Et on a l'impression que Jésus, c'est un être juste, oui, d'amour, certainement Dieu est amour, mais aussi très faible. Et savez-vous pourquoi le Jésus qu'on sert dans nos églises souvent est un Jésus faible? Parce que souvent dans les églises, la majorité des gens qui sont assis à l'église, ce sont des femmes. Alors les femmes ont créé ce Jésus qu'ils aiment, qui est doux. Puis c'est vrai, Jésus est doux, là. Jésus est merveilleux, Jésus est amour. Mais il y a une autre dimension de Jésus, faut qu'on se rappelle. Exode, chapitre 15, verset 3. L'Éternel est un veillant guerrier. Veillant guerrier. Ça veut dire, l'ennemi s'en vient contre nous, et le Jésus efféminé, là, on dirait il ferait peur. Non, le diable ferait peur au lieu. Hein? Mais si on comprend que c'est Jésus, le vaillant guerrier, qui est toujours victorieux contre la maladie, bien là, on a une nouvelle image de qui est Jésus. Et on voit que Jésus, c'est le victorieux. Et nous sommes les serviteurs de Jésus-Christ. Et puisque nous sommes en Christ, nous aussi, nous sommes victorieux. Là, on change notre façon de voir le Seigneur. Et puis, on peut avoir la foi que, oui, le diable, c'est vrai, il est fort. Mais Jésus est beaucoup plus fort, est plus grand celui qui est en moi que celui qui est dans le monde. Amen. Donc, si on marche notre vie chrétienne, on pense toujours que le diable, il est bien fort. C'est sûr, mais savez-vous, il a été déployé. Toutes les principautés là sont sous nos pieds parce que Jésus, quand il a repris l'autorité, il l'a repris. Il l'a repris et puis, vous savez, dans Éphésiens 3:20, ça nous parle comment Jésus a remis l'autorité à l'Église. Et nous, nous sommes maintenant cette Église glorieuse et on marche avec l'autorité de Jésus-Christ sur la terre. C'est pour ça que le Seigneur Jésus peut nous donner l'autorité de guérir les malades. Si on était juste des pauvres petits chrétiens, et Seigneur, si tu veux, veux-tu s'il vous plaît guérir tante Jacqueline? Si c'était ça notre mandat, je peux vous dire, on va continuer à vivre la vie chrétienne comme on vit aujourd'hui. Mais si on a la révélation que nous sommes des serviteurs du grand roi et de ce vaillant guerrier qui marche dans la victoire, et nous avons cette même autorité, nous sommes des représentants de Dieu, et qu'on a l'autorité, on dit au diable, enlève tes pattes sales sur ma famille, t'enlèves tes mains sur ma famille, mes enfants. Au nom de Jésus, on marche dans la guérison. Et toutes les choses qu'on peut entendre dans le corps de Christ qui circulent comme quoi, ouais, mais faut faire ça avant d'être guéri. Savez-vous, le Seigneur Jésus, là, c'est notre modèle parfait. Quand Jésus guérissait les malades, il disait pas, excusez, est-ce que ton grand-père avait un problème dans sa vie? Et puis, faut briser ça avant. Je vous dis pas là que des fois, faut pas parler de problèmes avec des gens. Mais qu'est-ce que je suis en train de vous dire, c'est qu'on peut débarquer de la route du Seigneur. Notre mandat, là, on est là pour représenter Jésus et faire exactement comme Jésus faisait. Savez-vous ça? Si Jésus pouvait prêcher à une foule de 15-20 000 personnes et voir plein de guérisons, savez-vous, il n'y avait pas le temps de passer tout le monde individuellement pour voir s'il était correct avant de dire « OK, sois guéri ». Non, au nom de Jésus, on a cette autorité-là et on prie pour les malades et on croit pour la guérison. Donc, Jésus n'est pas faible, il est fort. Et dans 1 Jean 5:18, ça dit, nous savons que quiconque est né de Dieu ne pèche point. Donc, on n'ouvre pas la porte à Satan pour venir faire toutes sortes de choses dans nos vies. Mais celui qui est né de Dieu se garde lui-même et le malin ne le touche pas. Vous savez, l'ennemi n'a pas le droit légal de venir vous toucher quand vous êtes un enfant de Dieu qui ne marche pas dans le péché. Si vous marchez dans le péché puis vous êtes imbibé là-dedans, c'est ça votre vie, bien là, vous ouvrez plein de portes à l'ennemi puis vous dites, OK, viens me faire toutes les choses de mauvaises, viens me terrasser, vous donnez un droit légal. Mais quand vous êtes un enfant de Dieu puis vous dites, hey, tasse-toi d'ici, toi. Là, vous venez de prendre votre autorité puis vous pouvez jouir de la bénédiction d'être un enfant de Dieu. Vous pouvez vraiment marcher en santé comme Dieu veut qu'on marche en santé. Mais des chrétiens religieux traditionnels qui pensent qu'ils attendent toujours que le Seigneur fasse de quoi, ils passent à côté la bénédiction de Dieu. Parce qu'on est appelé à faire quelque chose. Jésus ne reviendra pas guérir les malades. Jésus est en train de guérir les malades à travers votre vie. C'est comme ça que Jésus guérit les malades. C'est à travers vous. Mais si on attend qu'il fasse de quoi, lui attend après vous. Amen. Donc, Jésus n'est pas faible, il est fort et le diable est sous nos pieds. L'autre mythe, OK, c'est que toute guérison doit être instantanée. On prie pour vous, vous quittez cette place, vous dites, oh, je ne sens pas rien de différent. Finalement, ça n'a pas marché. Et là, vous partez chez vous, puis je vais retourner la semaine prochaine. Et puis là, vous avez toujours l'espoir qu'un jour, peut-être, vous allez guérir et vous allez avoir une guérison instantanée. Vous allez sentir la présence de Dieu. Puis, oh, là, je suis guéri. Mais savez-vous, c'est pas comme ça. Ma femme, elle l'a pas expérimenté comme ça. Mais ça peut arriver, certainement. Ça peut arriver. Vous pouvez vivre un miracle instantané comme ça, mais la majorité du temps, Dieu s'attend qu'on marche par la foi. C'est un combat de la foi. Et puis, ça veut dire qu'on va prendre la parole de Dieu et on va aller à la guerre. Comme Dieu est un guerrier, nous sommes également des guerriers. On va à la guerre contre la maladie et on résiste à Satan comme ma femme a fait. Et là, ça peut prendre, comme ma femme, elle, ça fait 10 ans qu'elle se lutte, et peut-être jusqu'à la fin de nos jours, on va dire au diable, va-t'en donc en enfer. Pensez-vous? Jusqu'à la fin de nos jours, il va nous attaquer. Mais ça ne veut pas dire que jusqu'à nos jours, il va nous attaquer avec les mêmes choses. C'est pas ça que je suis en train de dire, là. Mais ce que je suis en train de dire, c'est que autant et aussi longtemps que vous respirez, le diable vous aimera pas. Révélation, il vous aimera pas. Alors, toute notre vie, il va falloir résister à l'ennemi. Lui, son agenda, il travaille 24 heures sur 24 pour vous détruire, vous voler, vous égorger. Mais nous, quand on a la révélation que nous sommes des enfants de Dieu, on comprend qu'on a une responsabilité envers le Seigneur et dans notre rôle de représentant d'attaquer l'œuvre de l'ennemi. Amen? Donc ça, c'est une chose. Dans Luc 17, vous dites, c'est-tu biblique? Luc 17, 11 à 16. Je vais vous lire ça ici. Ça dit, Jésus se rendant à Jérusalem, passait entre la Samarie et la Galilée. Comme il entra dans un village, 10 lépreux virent à sa rencontre. Se tenant à distance, ils élevèrent la voix et dirent, « Jésus, maître, aie pitié de nous. » Dès qu'il les eut vus, il leur dit, « Allez vous montrer au sacrificateur. » Écoutez bien, 10 lépreux, Jésus, aie pitié de nous. Ils ne connaissent pas leur héritage, ils ne sont même pas enfants de Dieu encore, mais 10 lépreux disent, aie pitié de nous. Et Jésus dit, OK, premièrement, est-ce que vous avez demandé pardon pour tous vos péchés? Est-ce que vous avez fait ci? Avez-vous été demandé pardon à votre tante Roxane pour telle chose? Et finalement, oh, c'est vrai, il faut que je fasse tout ça, faut que je performe pour acheter ma guérison. Non, c'est pas ça que Jésus dit. Tout de suite, aie pitié de nous, il dit, allez vous montrer au sacrificateur. Il a même pas dit, soyez guéris. Il dit, allez au sacrificateur, allez vous montrer. Et pendant qu'ils y allaient, il arriva qu'ils furent guéris. Comme en chemin, Jésus a dit, allez vous montrer au sacrificateur. Et en chemin, ils furent guéris. Wow! Hey, c'est pas compliqué, hein? Allez-y, allez vous montrer. Et j'ai entendu cette semaine un témoignage. Vous connaissez Smith Wigglesworth au début des 1900. Il y avait un ministère de guérison très puissant. Et cet homme-là a dit à un homme boiteux, bien, il y avait un moignon comme pied. Okay? Il n'y avait pas de pied, le monsieur. Et le monsieur est venu pour recevoir la guérison. Alors, Smith Wigglesworth a simplement dit, « Sois guéri! » Non, même pas ça. Il a dit, « Va t'acheter une paire de souliers. » OK. Là, le monsieur, il servait d'abord. Et puis là, finalement, il va dans un magasin à chaussures. Il dit, je m'en viens m'acheter des chaussures. Et là, le vendeur, il dit, il n'y a pas de pied, là, mais il veut une paire de chaussures. Finalement, il dit, écoute, qu'est-ce que je te dis? Je veux acheter des chaussures. En quelle pointe? Sauf que là, il dit un numéro de pointure de chaussures. Finalement, il vient s'asseoir. Le monsieur vient y mettre des chaussures devant lui, et puis il rentre son moignon dans le pied, et comme, ou dans son moignon dans la chaussure, et comme il fait ça, son pied, il pousse. En chemin, ça peut être comme ça. C'est pas obligé d'être une formule. Vous savez, Dieu n'est pas préoccupé d'une formule. La façon que vous priez, qu'est-ce que vous dites, c'est le commandement de la foi. Allez vous montrer. Et j'ai entendu un autre témoignage cette semaine. Il y avait un monsieur qui avait des problèmes de digestion. Et puis le prédicateur en question, il dit, c'est quoi ton problème? Il dit, je ne peux pas digérer, j'ai bien de la misère, ça fait des années que j'ai des problèmes. Et puis là, le prédicateur, il dit, ben, c'est quoi que tu ne peux pas manger? Il dit, ben, j'aimerais bien ça manger un Blizzard Dairy Queen. Il dit, va t'acheter un Blizzard Dairy Queen. Et il est allé, ça faisait des années qu'il ne mangeait pas des choses comme ça. Et puis, plus tard, il revoit cette même personne, et il dit, à ce moment-là, quand j'ai mangé le Blizzard, j'étais guéri. Totalement guéri, j'ai plus jamais eu le problème. OK? Donc, c'est gloire à Dieu. On peut vivre des guérisons instantanées et aussi des fois, c'est progressif. Des fois, il faut prendre un pas par la foi. OK? Ça, c'est une des choses. D'autres passages, on va regarder ici. Trophime. OK, il y a toutes sortes de traditions. Ici, là, dans 2 Timothée 4:20, un verset pour vous voler la foi que les gens vont employer. L'apôtre Paul, il dit, « Éraste est resté à Corinthe et j'ai laissé Trophime malade à Milet. » Donc, la tradition qui a été construite là, à partir de ce verset-là, si l'apôtre Paul, il laisse les malades à Milet, ou il a laissé Trophime ici, là, malade, donc c'est normal qu'on laisse des gens malades. Et puis ça, on vient d'établir que des fois, Dieu veut qu'on laisse les gens malades. À partir de ce passage-là, voyez-vous comment on ne peut pas construire une doctrine à cause d'une chose comme ça? La seule chose qu'on peut tirer de ce passage-là, c'est que l'apôtre Paul vient de révéler ici que ce monsieur-là n'a pas reçu une guérison instantanée. Est-ce qu'on vient de mettre dehors toutes les promesses de Dieu à cause de ça? Non. 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 Donc, Trophime a été laissé malade à Milet. So what? Puis ça. Puis plus tard, qu'est-ce qu'il dit qu'il n'a pas reçu la prière puis il n'a pas été guéri 2 semaines plus tard? On le sait-tu? Construisons pas une doctrine à cause de ça. Un autre passage qui vient voler notre foi, 1 Timothée 5:23. En parlant de Timothée, l'apôtre Paul lui dit, « Ne continue pas à ne boire que de l'eau, mais fais usage d'un peu de vin à cause de ton estomac et de tes fréquentes indispositions. » Ici, le vin, là, c'était fort probablement du jus. Et qu'est-ce que l'apôtre Paul il dit? Ne continue pas à ne boire que de l'eau. Vous savez, moi, quand j'étais en mission en Haïti et j'ai maigri 18 livres dans une semaine, une des choses que j'ai faites, au début, j'ai bu de l'eau en bouteille, mais je pense que c'était de l'eau c'était de l'eau de la place qui avait été mise dans les bouteilles. Je crois que c'est ça qui s'est produit, là. Mais tout ça pour dire que des fois, on peut avoir la sagesse de faire autrement. Juste de marcher dans la sagesse pour vivre la protection de Dieu. Puis ici, dans ce cas-là, on voit l'apôtre Paul, il dit, bois pas juste de l'eau, bois du jus en même temps. Parce que là, présentement, dans ces pays-là, souvent, il y avait des problèmes d'estomac. Là, qu'est-ce qu'on peut voir ici? C'est Dieu est en train de nous montrer que simplement, des fois, il faut marcher dans la sagesse. En Haïti, quand j'étais là-bas et j'ai tombé malade juste vers la fin, moi, pendant tout le temps, je buvais que du Pepsi. Au début, j'ai bu de l'eau, puis là, je me suis dit, OK, peut-être que ce n'est pas une bonne idée, parce que je ne suis pas sûr que c'est vraiment de l'eau importée. Alors, je buvais du Pepsi. Toute la semaine, c'était dégueulasse, mais j'ai bu du Pepsi à semaine longue pour ne pas avoir de problème. Voyez-vous? Des fois, c'est juste une question de protéger notre santé. L'apôtre Paul, il dit, OK, bois pas d'eau, là, bois juste du jus. OK? Vous comprenez le texte ici? Mais à partir de ce verset-là, on a commencé à dire que c'est normal que des chrétiens aient des maux d'estomac. On vient d'établir doctrine 51, là. Les chrétiens peuvent souffrir des mal d'estomac parce que l'apôtre Paul a dit ça à Timothée. Mais il faut faire attention comment on établit des doctrines. Ce n'est pas avec des passages comme ça où on peut bâtir des choses. Est-ce que vous êtes toujours avec moi? Une autre chose qu'on doit comprendre, le mythe numéro 1 au Québec, je pense, ou numéro 2. Il y en a deux, on va les voir, peut-être pas aujourd'hui. Mais il y a deux choses principalement. Quand ça va mal, quand il y a un problème, qu'est-ce qu'on fait? Bien, toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. L'avez-vous entendu celle-là? Toute chose concourt à votre bien. Un petit cancer, ça concourt à mon bien. Un accident de taux, ah ouais, envoie-moi-en d'autres, Seigneur. Plein de problèmes. Une jambe de cassé, alléluia, toute chose concourt à mon bien. Et là, les chrétiens se couchent à terre comme des tapis et disent à Satan, viens me terrasser parce que moi, je suis ignorant de mon héritage en Christ. Et puis, je pense que toutes choses sont permises de Dieu dans ma vie parce que je suis un enfant de Dieu. Savez-vous, une des choses que Dieu nous demande de faire, c'est de résister et de discerner. Dieu nous appelle de discerner qu'est-ce qui vient de Dieu, qu'est-ce qui vient pas de Dieu. Si on ne discerne pas, on est terrassé par Satan et ce n'est pas la faute de Dieu. Ça, on l'a déjà vu ensemble, mais savez-vous, on va le relire ensemble parce que ça va bâtir notre foi. Est-ce que c'est biblique, toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu? Oui, c'est biblique, mais dans son texte, dans son contexte. Vous savez, Judas, c'est écrit, « Alla se pendre » et on peut trouver un autre verset dans la parole qui dit « Allez faire de même ». Ça ne veut pas dire que c'est la volonté de Dieu pour vous. Faut prendre les textes dans leur contexte pour croire la parole correctement. Dans Romains chapitre 8, versets 26 à 28, il est écrit, le contexte, vous allez remarquer ici, c'est concernant la prière dans l'esprit. Donc, en partant, c'est ça le contexte. De même aussi, l'esprit nous aide dans notre faiblesse, car nous ne savons pas ce qui nous convient de demander dans nos prières, mais l'esprit lui-même intercède par des soupirs inexprimables. Et celui qui sonde les cœurs connaît quelle est la pensée de l'esprit, parce que c'est selon Dieu qu'il intercède en faveur des saints. Nous savons du reste que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein. On sait que toute chose, peu importe qu'est-ce qui nous arrive, si on est des chrétiens qui prient par l'Esprit, même si on comprend pas qu'est-ce qui se passe, même si on comprend pas les attaques de l'ennemi, on sait que en priant, toutes choses vont concourir à notre bien. Mais comment est-ce qu'on peut séparer la promesse du contexte? Si vous ne priez pas en esprit et il y a des attaques de l'ennemi et vous les acceptez, vous dites, « Oh Seigneur, merci », comme il y en a qui font, ils disent merci en toutes choses, mais pas juste en toutes choses, pour toutes choses. Merci Seigneur pour le petit cancer que tu m'envoies. Non, si vous faites des choses comme ça et vous remerciez Seigneur pour l'œuvre de Satan, vous êtes en train de recevoir toute l'œuvre de Satan comme si c'était un cadeau de Dieu. Toutes choses vont concourir à votre bien, mais premièrement, il faut comprendre que vous êtes responsable de prier que la volonté de Dieu se fasse. Si vous ne priez pas et vous recevez les attaques comme ça, je m'excuse, c'est un verset hors contexte. Croyez-vous ça ce matin? Donc, toute chose concourt à mon bien, alléluia, savez-vous pourquoi? Parce que je prie. Je suis un homme de prière, ma femme a prié, nos enfants ont prié. On est une église qui prie et toute chose, peu importe les choses que l'ennemi envoie contre nous, à cause qu'on prie par l'Esprit, on sait que le Seigneur va tout transformer à notre bien. Amen. C'est simple à comprendre. Si on pouvait juste croire la parole dans, à la lumière du contexte, amen, c'est très important. Oh, et savez-vous, la semaine prochaine, je vais finir, une minute de plus. On va faire ça en deux parties. Le chrétien doit souffrir la maladie. Et cette semaine, j'ai eu un frère qui m'a envoyé ce texte-là, juste par curiosité, c'est quoi que ça veut dire ce texte-là? Puis j'ai trouvé ça, ça serait bon d'en parler. Philippiens chapitre 3, versets 10 à 11. Il est écrit, je vais lire dans la Bible du Sommeur, « C'est ainsi que je pourrai connaître le Christ, c'est-à-dire expérimenter la puissance de sa résurrection et pour avoir part à ses souffrances en devenant semblable à lui jusque dans sa mort afin de parvenir, quoi qu'il arrive, à la résurrection d'entre les morts. » Si je vais connaître la souffrance de Christ, pourquoi? Qu'est-ce que ça veut dire quand je vais souffrir comme Christ? Est-ce que ça veut dire que je dois souffrir la maladie? Non. Si Christ a porté la maladie à la croix, est-ce que je dois reporter cette maladie encore une fois? Non. Quand on dit qu'on doit souffrir comme Christ, ça veut dire qu'il faut souffrir et porter notre croix comme serviteur de Jésus-Christ. Ça ne veut pas dire de revivre toute la malédiction de Deutéronome 28. Si Jésus a porté la malédiction et nous a racheté de la malédiction, c'est pas pour qu'on vive encore une fois dans la souffrance de la malédiction, sinon il aurait payé pour rien. Donc, quand on dit « faut souffrir comme Christ », ça veut dire qu'on va souffrir par rapport à notre identification à être un enfant de Dieu. Et là, on porte notre croix, on s'identifie à Jésus-Christ, et ça se peut qu'on va se faire moquer, ça se peut qu'on va avoir de la discrimination, et on va se tenir, on va dire, moi, je porte ma croix, je m'identifie à Jésus-Christ, malgré les persécutions, malgré les gens qui peuvent rire de moi, je me tiens debout dans ma foi en Jésus-Christ parce que je m'identifie à lui. Mais je porterai pas l'œuvre de la croix dans mon corps, c'est pas vrai. Jésus l'a porté une fois pour toutes, et c'est pas à nous de porter nos péchés, c'est pas à nous de porter nos maladies. Mais Satan, il voudrait tout nous mélanger, souffrir comme Christ. Je m'excuse, il faut revenir à la parole de Dieu. Et la semaine prochaine, on va continuer, on va démystifier des traditions qui se sont infiltrées dans l'Église pour nous voler notre héritage. L'heure est arrivée pour que nous, qu'on soit des chrétiens de la parole et qu'on vive l'héritage qu'on a. Si c'est écrit, si Jésus a payé le plein prix pour qu'on puisse vivre notre héritage, l'heure est arrivée qu'on puisse en jouir et être ce témoin vivant que Jésus est encore vivant et que Jésus fait encore des miracles aujourd'hui. Amen. Moi, là, je veux pas juste une église pour ajouter une église à Granby, puis qu'on puisse tous être une gang de malades, puis de désespérés, découragés, déprimés. Non, on est appelé à être des lumières dans ce monde, et quand les gens vont vous voir, ils vont dire, « Wow, il y a quelque chose de spécial dans ta vie. » Moi, je me réjouis du témoignage de Marie-Josée. Les gens, même de son ancienne église et des autres églises, disent, « Mais qu'est-ce qui s'est passé dans ta vie? T'es donc bien rayonnante, t'es souriante, t'as de l'air en santé, qu'est-ce qui s'est passé? » La parole de Dieu est rentrée dans son cœur et elle le vit. Gloire à Dieu, c'est ça que Dieu veut pour ses enfants. La parole de Dieu, les promesses de Dieu sont oui et amen. C'est pas oui, mais c'est oui et amen. Puis quand on dit oui, Seigneur, là, on est en position pour recevoir les bienfaits de Dieu. Amen. Alors ce matin, qu'est-ce qu'on va faire? Si vous avez besoin de prière, on va se mettre en accord avec vous pour la guérison. Mon épouse et moi, on va prier pour vous premièrement. Par la suite, on a Guy et mes parents et Martine, peut-être ben Jean va faire la musique, mais Martine va venir prier pour vous par la suite. Et savez-vous, c'est pas compliqué. Si vous croyez Dieu, on va se mettre en accord avec votre foi et on va s'attendre à des miracles au nom de Jésus. Amen. Alors l'équipe de la louange, pendant que vous vous avancez pour nous emmener dans la louange, je vais inviter tous ceux qui n'ont pas besoin de guérison, mais vous connaissez quelqu'un, priez pour eux aussi. Et même priez pour les gens en avant ici, qui veulent recevoir une touche de Dieu. Priez que le Seigneur travaille par son esprit, qu'on soit pas déconnecté, mais qu'on puisse rester engagé dans la prière. Amen. Alors, je vais inviter mon épouse à venir.
Nous espérons que vous avez été bénis par ce message. Chaque année, le ministère Enseigne-moi a un impact considérable dans la vie de dizaines de milliers de personnes. Avec votre aide, nous continuerons à diffuser la parole de Dieu partout dans le monde. Dès aujourd'hui, devenez vous aussi partenaire du ministère Enseigne-moi en vous connectant sur le site www.association-enseignemoi.org. www.association-enseignemoi.org.